d'idéologie propriétariste entre émancipation et sacralisation. Plus généralement, la Révolution française illustre une tension que nous allons fréquemment retrouver par la suite. L'idéologie propriétariste a une dimension émancipatrice qui est réelle et ne doit jamais être oubliée. Et en même temps, elle porte en elle une tendance à la quasi-sacralisation des droits de propriété établis dans le passé, quelle que soit leur ampleur et leur origine, qui est tout aussi réelle et dont les conséquences inégalitaires et autoritaires peuvent être considérables. À son fondement, l'idéologie propriétariste repose sur une promesse de stabilité sociale et politique, mais aussi d'émancipation individuelle, au travers du droit de propriété, réputé ouvert à tous, ou tout du moins à tous les adultes de sexe masculin, car les sociétés propriétaristes du XIXe et du début du XXe siècle sont violemment patriarcales, avec toute la force et la systématicité que leur procure un système légal centralisé moderne. En principe, ce droit a au moins le mérite de s'appliquer indépendamment des origines sociales et familiales des uns et des autres, et sous la protection équitable de l'État. Par comparaison aux sociétés trifonctionnelles, qui reposaient sur des disparités statutaires relativement rigides entre clergé, noblesse et tiers-État, et sur une promesse de complémentarité fonctionnelle, d'équilibre et d'alliance entre les classes, les sociétés de propriétaires entendent s'appuyer sur l'égalité des droits. Il s'agit de sociétés où les privilèges du clergé et de la noblesse ont été abolis, ou tout du moins où leur portée a été considérablement amoindrie. Chacun a le droit de jouir de sa propriété en sécurité, à l'abri de l'arbitraire du roi, du seigneur ou de l'évêque, et de bénéficier d'un système légal et fiscal traitant chacun de la même façon, suivant des règles stables et prévisibles dans le cadre de l'état de droit. Chacun sera ainsi incité à faire fructifier sa propriété au mieux, grâce aux connaissances et aux talents dont il dispose. Cette utilisation habile des capacités de chacun est supposé mener naturellement à la prospérité de tous et à l'harmonie sociale. Cette promesse d'égalité et d'harmonie s'exprime sans détour dans les déclarations solennelles qui caractérisent les révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe siècle. La déclaration d'indépendance adoptée à Philadelphie le 4 juillet 1776 commence par une affirmation parfaitement claire. « We hold this truth to be self-evident » that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. La réalité est cependant plus complexe, puisque le rédacteur de la déclaration, Thomas Jefferson, qui possédait quelque 200 esclaves en Virginie, oublie de mentionner leur existence, et le fait qu'ils continueront de toute évidence d'être un peu moins égaux que leurs propriétaires. Il n'en reste pas moins que la déclaration de 1776 représente pour le colon blanc états-unien une affirmation d'égalité et de liberté face au pouvoir arbitraire du roi d'Angleterre et aux privilèges statutaires de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes. Ces assemblées de privilégiés étaient sommées de laisser les colons tranquilles, et de cesser de leur imposer des impôts indus et d'interférer sans raison avec leur poursuite du bonheur et la conduite de leurs affaires, de leurs propriétés et de leurs inégalités. On retrouve la même radicalité, et aussi des ambiguïtés comparables, dans un contexte inégalitaire différent, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en août 1789 par l'Assemblée nationale peu après le vote de l'abolition des privilèges. L'article 1 commence par une promesse d'égalité absolue, qui marque une rupture claire par rapport à l'ancienne société d'ordre. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La suite de l'article introduit la possibilité d'une inégalité juste, mais en posant des conditions. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 2 précise les choses en accordant au droit de propriété le statut de droit naturel et imprescriptible. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Au final, L'ensemble peut être interprété et utilisé de façon contradictoire, et il ne manqua pas de l'être. L'article 1 peut être interprété dans un sens relativement redistributif. Les distinctions sociales, c'est-à-dire les inégalités au sens large, ne sont acceptables que si elles sont au service de l'utilité commune et de l'intérêt général, ce qui peut vouloir dire qu'elles doivent être dans l'intérêt des plus pauvres. Cet article pourrait donc être mobilisé pour organiser une certaine forme de redistribution des propriétés et pour favoriser l'accès des plus pauvres à la richesse. L'article 2 peut cependant être lu suivant une interprétation beaucoup plus restrictive, puisqu'il laisse entendre que les droits de propriété acquis dans le passé constituent des droits naturels et imprescriptibles, et par conséquent ne sauraient être remis en cause aisément. De fait, cet article a été utilisé dans les débats révolutionnaires pour justifier une grande prudence en matière de redistribution de la propriété. Plus généralement, les références aux droits de propriété dans les déclarations de droits et les constitutions ont souvent été utilisées au cours des 19e-20e siècles et jusqu'à nos jours pour limiter drastiquement toute possibilité d'une redéfinition légale et apaisée du régime de propriété. De fait, une fois l'abolition des privilèges proclamée, il existe une multiplicité de chemins possibles au sein du schéma propriétariste, comme nous l'avons vu avec les hésitations et les ambiguïtés de la Révolution française. Par exemple, on peut considérer que la meilleure façon de favoriser l'égalité d'accès à la propriété est de mettre en place une fiscalité fortement progressive sur l'héritage et sur les revenus, et des propositions précises en ce sens furent formulées dès le XVIIIe siècle. Plus généralement, on peut utiliser les institutions de la propriété privée pour les dimensions émancipatrices qu'elles peuvent apporter, en particulier pour permettre à la diversité des aspirations individuelles de s'exprimer, ce que les sociétés communistes du XXe siècle ont tragiquement choisi d'oublier, tout en les encadrant et les instrumentalisant au sein de l'État social, d'institutions redistributrices telles que la progressivité fiscale et plus généralement de règles permettant de démocratiser et de partager l'accès au savoir, au pouvoir et à la richesse, comme ont tenté de le faire les sociétés social-démocrates au XXe siècle, même si l'on peut juger ces tentatives insuffisantes et inabouties. Nous y reviendrons. Ou bien, on peut se reposer sur la protection absolue de la propriété privée pour résoudre presque tous les problèmes, ce qui peut aboutir dans certains cas à une quasi-sacralisation de la propriété et à une méfiance absolue contre toute tentative de remise en cause. Le propriétarisme critique, disons pour simplifier de type social-démocrate et qui repose en réalité sur des formes de propriété mixte, privée, publique et sociale, tente d'instrumentaliser la propriété privée au nom d'objectifs supérieurs. Le propriétarisme exacerbé la sacralise et la transforme en solution systématique. Au-delà de ces deux voies générales, il existe une infinie diversité de solutions et de trajectoires envisageables, et il existe surtout des voies nouvelles qui restent largement à inventer. Au cours du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est principalement le propriétarisme exacerbé et la quasi-sacralisation de la propriété privée qui se sont imposés, aussi bien en France que dans les autres pays européens. Sur la base des expériences historiques dont nous disposons aujourd'hui, il me semble que cette forme de propriétarisme doit être rejetée. Mais il importe de comprendre les raisons qui ont fait le succès de ce schéma idéologique, en particulier dans le cadre des sociétés de propriétaires européennes du XIXe siècle. De la justification de l'inégalité dans les sociétés de propriétaires. Au fond, l'argument formulé par l'idéologie propriétariste de façon implicite dans les déclarations de droits et les constitutions, et de façon beaucoup plus explicite dans les débats politiques autour de la propriété qui eurent lieu au cours de la Révolution française et tout au long du XIXe siècle, peut se résumer de la façon suivante. Si l'on commence à remettre en cause les droits de propriété acquis dans le passé et leur inégalité, au nom d'une conception de la justice sociale certes respectable, mais qui inévitablement sera toujours imparfaitement définie et acceptée, et ne pourra jamais faire totalement consensus, ne risque-t-on pas de ne pas savoir où arrêter ce dangereux processus ? Ne risque-t-on pas d'aller tout droit vers l'instabilité politique et le chaos permanent, ce qui finira par se retourner contre les plus modestes ? la réponse propriétariste intransigeante est qu'il ne faut pas courir un tel risque et que cette boîte de Pandore de la redistribution des propriétés ne doit jamais être ouverte. Ce type d'argumentation est présent en permanence lors de la Révolution française, et il explique nombre des ambiguïtés et des hésitations observées, en particulier entre les approches historiques et linguistiques des droits anciens et de leur retranscription en droits de propriété nouveaux. Si l'on remet en cause les corvées et les lots, ne risque-t-on pas de remettre aussi en cause les loyers et l'ensemble des droits de propriété ? Nous retrouverons ces arguments dans les sociétés de propriétaires du XIXe siècle et du début du XXe siècle, et nous verrons qu'ils jouent toujours un rôle fondamental dans le débat politique contemporain, en particulier avec le retour en force d'un discours néo-propriétariste depuis la fin du XXe siècle. La sacralisation de la propriété privée est au fond une réponse naturelle à la peur du vide. À partir du moment où l'on abandonne le schéma trifonctionnel, qui proposait des solutions permettant d'équilibrer le pouvoir des guerriers et celui des clercs, et qui reposait dans une large mesure sur une transcendance religieuse, indispensable pour assurer la légitimité des clercs et de leurs sages conseils, il faut trouver des réponses nouvelles permettant de garantir la stabilité de la société. Le respect absolu des droits de propriété acquis dans le passé fournit une transcendance nouvelle, permettant d'éviter le chaos généralisé et de remplir le vide laissé par la fin de l'idéologie trifonctionnelle. La sacralisation de la propriété est d'une certaine façon une réponse à la fin de la religion comme idéologie politique explicite. Sur la base de l'expérience historique et de la construction d'un savoir rationnel fondé sur ces expériences, il me semble qu'il est possible de dépasser cette réponse, certes naturelle et compréhensible, et en même temps quelque peu nihiliste et paresseuse, et peu optimiste sur la nature humaine. Je vais essayer dans ce livre de convaincre le lecteur que l'on peut s'appuyer sur les leçons de l'histoire pour définir une norme de justice et d'égalité plus exigeante en matière de régulation et de répartition de la propriété que la simple sacralisation des droits issus du passé, une norme qui certes ne peut qu'être évolutive et ouverte à la délibération permanente, mais qui n'en est pas moins plus satisfaisante que l'option commode, consistant à prendre comme données les positions acquises et à naturaliser les inégalités ensuite produites par le marché. C'est d'ailleurs sur cette base pragmatique, empirique et historique que se sont développées les sociétés social-démocrates au XXe siècle, qui, malgré toutes leurs insuffisances, ont démontré que l'inégalité patrimoniale extrême du XIXe siècle n'était aucunement indispensable pour assurer la stabilité et la prospérité, bien au contraire, et que peuvent se construire des idéologies et des mouvements politiques novateurs en ce début de XXIe siècle. La grande faiblesse de l'idéologie propriétariste est que les droits de propriété issus du passé posent souvent de sérieux problèmes de légitimité. Nous venons de le voir avec la Révolution française, qui transforma sans coup férir des corvées en loyers, et nous retrouverons cette difficulté à de nombreuses reprises, en particulier avec la question de l'esclavage et de son abolition dans les colonies françaises et britanniques, où l'on décida qu'il était indispensable de dédommager les propriétaires et non pas les esclaves, ou bien encore avec celle des privatisations post-communistes et des pillages privés de ressources naturelles. Plus généralement, le problème est qu'indépendamment de la question des origines violentes ou illégitimes des appropriations initiales, des inégalités patrimoniales considérables, durables et largement arbitraires tendent à se reconstituer en permanence dans les sociétés hypercapitalistes modernes comme d'ailleurs dans les sociétés anciennes. Il n'en reste pas moins que la construction d'une norme de justice acceptable par le plus grand nombre pose des problèmes considérables et nous ne pourrons véritablement traiter de cette question complexe qu'à l'issue de notre enquête, après l'examen des différentes expériences historiques disponibles, et en particulier des expériences cruciales du XXe siècle en matière de progressivité fiscale et plus généralement de redistribution des propriétés, qui ont apporté la démonstration historique matérielle que l'inégalité extrême n'avait rien d'indispensable, ainsi que des connaissances concrètes et opérationnelles sur les niveaux d'égalité et d'inégalité qui pouvaient être envisagés à minima. En tout état de cause, l'argument propriétariste fondé sur le besoin de stabilité institutionnelle doit être pris au sérieux et être évalué précisément, au moins autant que l'argument méritocratique, insistant davantage sur le mérite individuel, argument qui joue un rôle sans doute moins central dans l'idéologie propriétariste du XIXe siècle que dans la reformulation néo-propriétariste en vigueur depuis la fin du XXe siècle. Nous aurons largement l'occasion de revenir sur ces différents développements politico-idéologiques. De façon générale, l'idéologie propriétariste dure doit être analysée pour ce qu'elle est, un discours sophistiqué et potentiellement convaincant sur certains points, car la propriété privée, correctement redéfinie dans ses limites et dans ses droits, fait effectivement partie des dispositifs institutionnels permettant aux différentes aspirations et subjectivités individuelles de s'exprimer et d'interagir de façon constructive. Et en même temps, une idéologie inégalitaire qui, dans sa forme la plus extrême et la plus dure, vise simplement à justifier une forme particulière de domination sociale, souvent de façon excessive et caricaturale. De fait, il s'agit d'une idéologie bien pratique pour ceux qui se trouvent tout en haut de l'échelle, aussi bien en ce qui concerne l'inégalité entre individus que l'inégalité entre nations. Les individus les plus riches y trouvent des arguments pour justifier leur position vis-à-vis des plus pauvres, au nom de leur effort et de leur mérite, mais aussi au nom du besoin de stabilité dont bénéficiera la société tout entière. Les pays les plus riches peuvent également y trouver des raisons pour justifier leur domination sur les plus pauvres, au nom de la supériorité supposée de leurs règles et institutions. Le problème est que ces arguments et les éléments factuels présentés par les uns et les autres pour les étayer ne sont pas toujours très convaincants. Mais avant d'analyser ces développements et ces crises, il importe de commencer par étudier l'évolution des sociétés de propriétaires au XIXe siècle en France et dans les autres pays européens à l'issue de ce moment fondateur et ambigu que fut la Révolution française.